Il est 8h22.
Le 7-9 de France Inter, première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
32% des voix qui feraient 75% des députés. Est-ce que ce système est juste et raisonnable ?
C'est le mode de scrutin dans lequel nous sommes depuis de longues années qui donne effectivement une prime majoritaire. C'est aussi la mémoire de la 4e République où il y avait des majorités relatives incertaines, déstabilisatrices pour l'action gouvernementale. C'est un système qui permet d'avoir une opposition. Il y aura une opposition présente à l'Assemblée, mais aussi une majorité qui mettra en œuvre le contrat passé par Emmanuel Macron avec les Français le 7 mai à 20h.
Ce système, vous allez le changer, Christophe Castaner ?
Le président de la République s'était exprimé sur le sujet, voulant instiller à la fois une dose de proportionnelle et réduire le nombre de parlementaires. Ce sera au calendrier de notre travail dans les mois qui viennent.
L'abstention qui fait qu'un électeur sur sept seulement a accordé sa confiance à vos candidats, ce qui fait dire à certains qu'il n'y a pas eu une vague Macron, mais une vague blanche compte tenu du niveau d'abstention. Que leur dites-vous, Christophe Castaner ?
Vous savez, à chaque élection, on va pondérer le résultat de l'élection entre ceux qui n'ont pas voté au premier tour, multiplié par ceux qui auraient pu éventuellement venir voter, pour finir par dire que celui qui a gagné n'a pas gagné. Ça, c'est le discours habituel de ceux qui perdent, qui de toute façon ont perdu. Donc je crois que l'abstention, par contre, est un vrai sujet. Voir qu'un Français sur deux seulement considère que l'élection de son député dans sa circonscription est importante, montre une anomalie, montre une perte de confiance dans la politique en général. Et en quelques semaines du gouvernement d'Édouard Philippe sous l'autorité d'Emmanuel Macron, on n'a pas réglé ce problème. Ça doit être notre principal chemin de travail pour les semaines qui viennent.
L'abstention n'enlève pas à la victoire d'En Marche ?
Non, je crois qu'il ne faut pas faire de calcul d'apothicaire. Il y a aujourd'hui...
C'est un message politique.
Oui, mais comporter tous ceux qui ont perdu, et comme à chaque soirée électorale, on cherche à pondérer le résultat. Il y a aujourd'hui une volonté nette des Français, à la fois de donner une majorité pour La République En Marche et d'autre part, de renouveler profondément la classe politique, de changer les visages de ceux qui incarnent depuis trop longtemps le système politique français.
Alors, on va parler de la majorité et du renouvellement. La majorité, d'abord, c'est plus qu'une majorité. Ça fonctionnerait comment, une assemblée occupée aux trois quarts par un groupe majoritaire et homogène ? Est-ce que ça fonde un pouvoir autonome ou un contre-pouvoir, Christophe Castaner ?
D'abord, il y a deux chambres. Le Sénat n'est pas de la même couleur politique que l'Assemblée nationale, c'est déjà une donnée. Ensuite, il y aura de grandes voix. Je ne veux pas imaginer d'avance le score de certains candidats pour le second tour, mais il y aura de grandes voix à l'Assemblée nationale qui seront des voix d'opposition au gouvernement d'Édouard Philippe et qui pourront se faire entendre. Et puis enfin, il y aura dans ce groupe majoritaire des femmes et des hommes qui ne viennent pas de la politique, qui viennent de la société civile et qui évidemment ne sont pas dans l'uniformité. Mais je vais vous proposer la suggestion que nous a fait le président de la République lors du premier conseil des ministres s'adressant à ses ministres. Il nous a dit « Je ne veux pas l'uniformité, sinon je ne vous aurais pas choisi, vous, dans votre diversité de parcours, politique ou non politique pour la moitié, venant de la droite ou venant de la gauche. Soyez vous-même. Par contre, quand une décision collective est prise, et elle le sera au niveau du groupe pour l'Assemblée nationale, elle doit être la règle pour tous. »
Vos candidats n'ont pas signé un engagement de rester fidèles au programme d'Emmanuel Macron et de En Marche ?
Mais ils ont évidemment signé l'engagement de mettre en œuvre le projet présidentiel. Chacun sait...
Donc il n'y aura pas de frondeur.
Notez qu'en 2012, ceux qui avaient été élus avec François Hollande ont été élus grâce à François Hollande et certains l'ont oublié très vite. Donc, oui. Je ne peux pas garantir que la totalité des élus de La République En Marche ne néglige pas cela. Mais ce sera notre responsabilité de la rappeler.
Il pourrait y avoir des frondeurs, donc.
Évidemment que sur 400, vous pouvez avoir une, deux, trois personnes. Je suis incapable de vous dire devant vous ce matin, et je vous mentirai, il n'y aura pas de frondeurs, tout se passera bien, ce sera merveilleux, on est dans le monde des bisounours. Mais la réalité, c'est que chacun peut noter hier une vraie leçon d'humilité pour les politiques. Il y a des femmes et des hommes qui sont battus, qui ont été battus hier soir et qui ont fait un travail formidable à l'Assemblée. Et pourtant, le mouvement politique leur est défavorable. Là, je le dis aussi aux entrants. C'est le mouvement politique porté par Emmanuel Macron qui fait qu'il rentre à l'Assemblée nationale. Et donc, ils lui devront, non pas le respect à lui, c'est un minimum, mais le respect à ses engagements. Ils sont là pour faire en sorte que le projet présidentiel soit mis en œuvre sous l'autorité d'Édouard Philippe pour le gouvernement.
En disant cela, des gens qui ont fait un boulot formidable et qui ont été battus, vous reconnaissez qu'il y a une part d'injustice dans les résultats d'hier soir ?
Oui. J'ai des amis qui sont dans cette situation-là, avec qui je chemine depuis de longues années. Je viens du Parti Socialiste et je ne le néglige pas. Mais la politique, elle est quelquefois injuste. Vous savez, au soir du premier tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, je m'étais battu pendant 9 mois avec de nombreuses difficultés. J'ai fait un choix, celui de retirer ma liste. Je n'ai fait aucun élu, je n'ai pas été élu dans l'opposition à la région. Tout ça parce que je voulais empêcher que le Front National préside la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'était une part d'injustice, mais c'est le lot de notre engagement politique aussi.
C'est le lot. Oui, c'est le dégagisme. Vous n'avez pas inventé le terme, vous n'assumez sûrement pas le concept, mais c'est aussi votre résultat qui fait que l'étiquette La République en marche a chassé du Parlement, alors des députés, notamment à gauche. Hein, vous êtes issu du Parti socialiste, vous venez de le rappeler, des candidats de toutes sortes et des gens qui étaient élus depuis longtemps, qui n'avaient pas démérité. Vous avez des exemples?
C'est le cas, évidemment. Je vous dis que j'ai même des amis qui étaient touchés par cela, mais je suis pas objectif vu que ce sont des amis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis aussi fier de voir ces nouveaux visages qui rentrent à l'Assemblée, des gens qui n'ont pas le parcours classique du parlementaire où il faut avoir été attaché parlementaire, maire, conseiller départemental, conseiller régional pour venir député. Ils viennent de la société civile, ils étaient chefs d'entreprise, agriculteurs, syndicalistes, fonctionnaires, au chômage. Pour certains, ils sont candidats de La République En Marche. Et donc ce renouvellement profond, c'est La République En Marche qui le porte sans avoir pour autant besoin de mots aussi violents que le mot du dégagisme que certains ont utilisé ou continuent d'utiliser.
Beaucoup de novices y feront de bons parlementaires.
Vous savez, c'est la volonté qui fait de vous un bon parlementaire ou pas. Il y a de vieux briscards, très performants sur le règlement de l'Assemblée nationale, et qui pourtant n'y siègent assez peu. Et donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'énergie de celles et ceux qui vont rentrer. Et ensuite, à l'Assemblée, il y a la capacité à devenir un bon parlementaire si on le souhaite.
Thomas Legrand brûle de poser une question.
Non, mais dans les attributions d'une assemblée, du pouvoir législatif, il y a le contrôle de l'exécutif et de l'exécution des lois. Et on se dit, avec une telle majorité, une telle masse de députés, et vous avez dit qu'il devait être respectueux de la volonté du président de la République, c'est-à-dire de l'exécutif, comment est-ce que vous pouvez nous assurer qu'ils vont quand même contrôler l'exécutif sérieusement et rigoureusement?
Mais on sait tous que ça n'a jamais été fait, ce contrôle-là.
Oui, mais justement.
Et donc, la vraie nouveauté, c'est que vous aurez des parlementaires à temps plein. Des gens qui ne sont pas venus pour passer à l'Assemblée nationale, mais pour y travailler et pour faire ce boulot-là. Et être fidèle à la parole du président, c'est aussi reprendre ce volet-là. Parce que pendant la campagne, oui, Emmanuel Macron a souvent rappelé la nécessité pour les parlementaires de siéger moins et de prendre plus de temps pour contrôler l'activité gouvernementale. Ce sera aussi notre responsabilité dans les fonctions que j'ai aujourd'hui de ministre en charge des relations avec le Parlement. Ça fait partie de ma responsabilité. Je ne sais pas si demain je serai là ou pas. Ça relève du Premier ministre et du Président, mais si je le suis, ce sera aussi dans mes attributions de veiller à cela.
Par exemple, le président de la Commission des Finances pourra être quelqu'un de l'opposition, comme c'était le cas depuis maintenant deux législatures.
C'est maintenant inscrit dans la Constitution, et donc il faudra savoir quel est le groupe principal dans l'opposition.
Multiplier ça, parce qu'il n'y aura pas d'opposition cohérente, il y aura deux oppositions, il n'y aura pas d'alternative cohérente, puisqu'elles seront à droite et à gauche, à l'extrême droite et même à l'extrême gauche.
Oui, et puis on peut même imaginer qu'à droite, ce ne soit pas que de l'opposition aussi. J'ai vu que certains se proposaient d'être dans un contrôle positif du travail du gouvernement et pourraient même voter la confiance au Premier ministre. Moi, j'attends de voir. Je n'ai pas à décider comment s'organiseront les oppositions.
Il faudra beaucoup de vertus démocratiques pour ne pas utiliser cette hégémonie simplement à votre profit.
Mais vous avez raison. C'est essentiel que nous soyons vigilants sur cela. Il y a d'autres formes aussi de vertu démocratique, j'allais le dire. Il y a notamment la presse qui a pu faire la démonstration ces derniers temps, quels que soient les gouvernements, de sa vigilance.
Malgré les actions en justice.
Oui, ou les coups de fil intempestifs.
Ou surtout les actions en justice aussi. Déposer plainte pour contre la fuite de Libération, c'est vraiment une bonne initiative, Christophe Castaner.
La plainte, elle est contre le fait que vous ayez des agents qui travaillent pour une administration et qui diffusent largement des documents qui sont des documents internes. Et je pense que ça n'est pas de bonne politique. Elle n'est pas contre tel ou tel journal ou tel journaliste. Je crois qu'aujourd'hui, au moment où on veut faire confiance dans l'administration, le président veut mettre en place un spoil system, c'est-à-dire diminuer les cabinets, diminuer la place du politique pour redonner confiance dans l'administration. Il faut aussi que l'administration assume ses responsabilités.
En l'occurrence, il s'agissait du document signé de la Direction Générale du Travail, paru mercredi dans le journal Libération. Un dernier mot, avec une telle assemblée et une telle majorité, vous avez encore besoin de recourir à des ordonnances pour réformer le droit du travail?
La question n'est pas celle de la majorité, mais celle d'aller vite. On a besoin aujourd'hui d'aller vite. Un texte de loi, ça prend 2 ans entre le début de la discussion et sa mise en œuvre. Je crois que sur l'enjeu de retrouver, d'aller vers le plan d'emploi, il faut aller vite. Et les ordonnances, il y a 2 temps de discussion parlementaire, ces 2 temps auront lieu et on ne bridera pas le travail de l'Assemblée sur ces sujets-là.
Merci Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, d'être venu ce matin au micro de France Inter. On va regarder maintenant quels sont les commentaires de presse et puis juste après, on va retrouver Brice Teinturier, le directeur d'Ipsos, et le géographe Jacques Lévy. Il est 8h32.